notre étude sous l'épître aux Corinthiens, la première épître, dans laquelle nous nous sommes déjà approchés, et on a vu, juste aujourd'hui, on a vu surtout que l'Église doit être unie. Unie dans les ministères, unie dans la propagation de la parole de Dieu. Et la semaine dernière, on a vu unie dans la construction de l'Église. Le Seigneur nous a choisis pour continuer cette construction. Nous sommes, comme je dis toujours, les mains, les pieds de Jésus-Christ. C'est à nous d'aller, c'est son dernier commandement, d'aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle. On a vu la construction de l'Église, mais pour construire quelque chose, il faut quoi? Il faut des différents éléments. Hein? Il faut ceux qui dirigent et ceux qui y sont là pour se laisser diriger. Et ce soir, j'aimerais me parler de le rôle des cadres. Qui c'est, selon vous, les cadres de l'Église?
Les anciens pasteurs, oui.
Voilà, exactement. Des gens ils disent, bon, je suis dans l'Église, il n'y a que les pasteurs qui doivent me diriger. Non, on a été tous sauvés pour faire le travail de Dieu, apporter la parole partout. Tous, il n'y a pas que les pasteurs. Mais encore une fois, on a vu la semaine dernière que chacun de nous, il va être jugé sur ce qu'il a fait pendant sa vie.
Les contremaîtres.
Exactement, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière.
Les ouvriers, les pierres et le fumant pour les pierres.
On a vu que Paul, c'était l'architecte, il a fondé la plateforme, hein, l'église, il a commencé l'église, ensuite lui il est parti parce que c'était un évangéliste. Il y a eu d'autres qui sont venus et ils ont continué, hein, mais Paul lui dit attention, j'ai mis un fondement. Et il ne faut pas que vous apportiez un autre fondement. Et justement, ben voilà, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce soi-disant cadre de l'Église. Ce n'est pas, encore une fois, comme il a dit le frère, et vous l'avez pensé aussi, sans le dire, ce n'est pas seulement le pasteur, mais c'est chaque serviteur des dieux. On est tous des serviteurs des dieux. Hein? Et cette application sur ce que Paul nous dit, ce n'est pas réservé aux responsables de l'Église, mais à chacun de nous. Et justement, nous allons continuer dans notre étude. On s'était arrêté 3, 18, 17, et on va continuer dans le chapitre 3, verset 18, jusqu'au verset 4, chapitre 4, verset 5. Quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît.
18. Que nul ne s'abuse lui-même, si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur fourberie. Et encore, verset 20, le Seigneur connaît les raisonnements des sages. Il sait qu'ils sont vains. Verset 21, que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Verset 22, soit Paul, soit Apollos, soit Cephas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Verset 23, et vous êtes à Christ, voilà. Et Christ est à Dieu.
Vas-y, jusqu'au verset 5.
Ainsi, qu'on vous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu, verset 2, du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort, fort peu d'être jugé par vous ou par des juridictions humaines. Je ne juge pas non plus moi-même, car je n'ai rien sur la conscience. Verset 4. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, avant la venue du Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, la louange de chacun viendra de la part de Dieu.
Voilà ce que Paul, il continue à parler. Une fois qu'il a parlé de la construction de l'Église, il parle de ceux qui la construisent. Hein? Et justement, il nous montre ici, mon objectif ce soir, c'est de présenter des caractéristiques des serviteurs de Dieu ou des cadres de l'Église. Parce que vous savez bien que dans une Église, il y a ceux qui tirent les chariots. Et il y en a d'autres, malheureusement, et pourtant, on est tous des serviteurs, ils se laissent tirer.
Il a tout fait.
Voilà. Hein? Ils se laissent tirer. Et premièrement, on va voir dans le verset 18 à 22 ce que ne sont pas les cadres de l'Église, ce que les cadres de l'Église ne sont pas. Et il nous le dit premièrement au verset 18, 3, 18, Paul, il nous le dit, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi il est écrit, il prend les sages dans leur ruse. Alors, pas des notables de la société, hein? Le cadre de ce qui ne sont pas, ce n'est pas des notables de la société. Et ici, Paul, il oppose la sagesse de Dieu à celle des hommes naturels, mais sans esprit. Sans esprit, attention, hein? À Corinthe, certains s'illusionnaient qu'ils avaient des connaissances, qu'ils avaient de l'intelligence. Mais toutes ces choses-là, ils ne peuvent pas être en relation avec la sagesse de Dieu. Car Dieu, il ne reçoit pas notre intelligence. Lorsqu'on se tourne vers Dieu, il peut se tourner vers lui vide de toute notre connaissance, car c'est lui qui nous remplit. Si quelqu'un dit « J'accepte le Seigneur et je vais apporter le message avec mon propre message, ma propre intelligence », ce message il n'aura pas de puissance. Il faut laisser de côté tout ce que nous savons et se laisser remplir par la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qu'on a. Il peut y avoir des gens qui ont une très grande intelligence, une très grande connaissance, mais s'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils ne pourront jamais manifester la puissance de l'Esprit, la puissance de l'Évangile. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit qui nous donne cela, c'est l'Esprit qui nous fait comprendre toutes ces choses-là. Voilà pourquoi il dit, pas de notables. Bien sûr, il peut y avoir des notables qui ont l'Esprit, c'est-à-dire qu'ils ont laissé de côté tout ce qui leur appartient, tout ce qu'ils croient être. Et c'est dire un peu comme les serviteurs inutiles. Les serviteurs inutiles. Et il dit, si quelqu'un, il croit servir Dieu avec sa propre connaissance, sa propre intelligence, ça ne marchera jamais. Parce que la vraie puissance, c'est le Saint-Esprit qui donne cette puissance au message que nous apportons. D'ailleurs, ce n'est pas lorsque nous prêchons l'Évangile, ce n'est pas nous qui convaincons les gens, mais c'est l'Esprit qui convainc les gens. Voilà pourquoi il leur dit, pas de notables de la société. Pourquoi? Parce que les notables de la société, ceux qui se croient, ils croient arriver à connaître Dieu ou ne pas l'avoir parce qu'ils sont des notables. Ils ont les richesses. Et dit, je suis riche, qu'est-ce qu'il me manque? Je peux. Voilà pourquoi, comme je dis toujours, et quelqu'un qui l'a dit, prêcher la bonne nouvelle, la parole, ce n'est pas dire quelque chose, mais c'est avoir quelque chose à dire. Parce que n'importe qui peut se mettre là derrière et parler de tout et de n'importe quoi. Mais celui qui se met ici derrière et qui parle dans les églises, c'est parce qu'il a quelque chose à dire. Et c'est quelque chose, ça ne lui vient pas de sa propre intelligence, mais ça lui vient de Dieu. Voilà pourquoi il nous a dit que le message de l'Évangile, c'est une puissance. Ça ne vient pas de l'homme, c'est de Dieu. Et je crois que chacun de nous, il y est passé, comme je dis dimanche, lorsque nous ne connaissions pas Jésus-Christ, on le connaît, mais on ne l'avait pas accepté. Un jour, quelqu'un il nous a parlé. Il nous a dit qu'on était dans le péché, qu'on était sous le jugement de Dieu. Et c'est alors qu'il nous dit que malgré cela, Dieu, il est prêt à nous pardonner, il est prêt à nous venir en aide, il est prêt à nous donner la main pour que nous puissions aller vers lui. Et c'est là qu'il faut que ces choses-là que nous ayons apprises, ils descendent dans notre cœur. Et une fois qu'ils sont dans notre cœur, nous approprions de ces promesses. Car c'est Dieu qui fait les promesses. Et si Dieu il fait une promesse, nous devons le croire. Et pas se dire, oh, mais il parle comme ça. Non, c'est Dieu qui parle. Alors nous devons nous les approprier. Voilà pourquoi il dit, pas des notables de la société. Parce que quelqu'un qui se donne au Seigneur, qui l'accepte, c'est terminé pour lui la société. Les choses anciennes sont passées. Il faut que tout soit nouveau. Il faut que se laisse remplir par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Paul il parle de ce siècle présent, qui sont des notables, des sages dans ce siècle présent. Mais c'est quoi le siècle présent d'aujourd'hui? C'est le siècle de Satan. Satan, on l'a vu dimanche, c'est le prince de ce monde. C'est lui qui gouverne le monde. Voilà pourquoi c'est très important. Et les siècles à venir, c'est le royaume de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons être remplis de cela. Les choses de ce monde, il faut les laisser de côté. Hein? Les cadres d'une église ne sont pas forcément notables dans la société, mais il faut qu'ils soient des notables vis-à-vis de Dieu. Car vous savez bien que Dieu, il donne leurs richesses, qui sont des richesses injustes. Il nous donne les richesses. Parmi nous, il y a quelqu'un qui a des comptes en banque. Est-ce que nous l'avons mérité, cela? Non, nous ne l'avons pas mérité. Mais nous devons l'utiliser pour sa gloire. Voilà pourquoi la semaine dernière, on a parlé de ce tribunal de Christ. C'est ce qu'il faut, il faut être dénotable vis-à-vis de Dieu. Et pour être dénotable vis-à-vis de Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu en nous. C'est ça, voilà pourquoi Paul, il parle toutes ces choses-là. Il faut reconnaître notre impuissance et se dire, je suis rien. Voilà Seigneur, je viens vers toi, j'ai un doctorat, j'ai ça. Non, il faut dire Seigneur, je viens vers toi, je n'ai rien. Et c'est ça que le Seigneur il veut. Remplis-moi. J'ai rien. Ce que j'ai appris dans cette vie, ça ne me sert à rien. C'est que toi, tu me donnes. Alors là, oui, là, ça sert. Voilà pourquoi c'est quelque chose. Et encore une fois, on revient. La sagesse de l'homme, comme on a vu dans les autres études, la folie de Dieu. La folie de Dieu est beaucoup plus forte que la sagesse des hommes. Il faut être tous concentrés sur cela. Il y a Job dans Job 5, verset 13, et Paul, il cite Job, et il dit, c'est l'endroit où Eliphaz, vous savez, l'ami de Job, il lui parle. Et voilà ce qu'il lui dit. Il lui dit, Dieu prend les sages dans leur propre ruse. Et les conseils des hommes astucieux ne fait pas long feu. Pourquoi? Parce que notre propre sagesse, il ne vaut rien à côté de celle de Dieu. Voilà pourquoi Paul, il nomme cela. Il ne s'agit pas de poursuivre la bêtise, mais d'avoir l'humilité. Pourquoi je dis la bêtise? De se dire que quelqu'un, je dis, j'ai plein de connaissances, je suis sage aux yeux du monde. Il faut laisser tout ça et se dire, j'ai rien. Je me présente vers toi, Seigneur, sans rien. Et j'attends que toi, tu m'aies rempli. Car c'est seulement comme ça que je peux accomplir la tâche des serviteurs qui tu m'as donné. Et c'est ici que... Hein,
Salomon, ça aussi, Salomon. La folie, toutes les folies, il vient de guérir au vivant.
Il a dit quoi, Salomon? J'ai eu tous les pouvoirs de ce monde. J'ai construit à droite à gauche. J'ai fait à droite à gauche. Mais en regardant tout ça, mais j'ai rien. J'ai rien. Voilà pourquoi c'est très important. Et ici, Paul, il parle dans le verset suivant, il parle de l'orgueil. Il y a des gens qui ils se disent, je peux le faire, j'ai les moyens de le faire, je peux conduire une église, je peux faire ça et ça et ça. Ils sont orgueilleux. Voilà pourquoi Paul, il parle ça aux Corinthiens. Parce qu'à Corinthe, il y avait des gens orgueilleux. Voilà pourquoi au verset dans Proverbe 3, 5, il nous est dit, « Ne sois pas sage à tes propres yeux. » Ne sois pas sage à tes propres yeux. Et dans le verset 26, chapitre 26, verset 12, toujours dans Proverbe, « Si tu vois un homme qui est sage à ses propres yeux, il y a plus d'espérance pour un insensé que pour lui. » Je suis ça, je suis ça. Mais tu n'es rien. Ce n'est que de l'orgueil, tout ça. C'est ce qu'il faut, c'est qu'il faut avoir une confiance inouïe dans la parole de Dieu. Sinon, on ne peut pas. En tant que responsable, en tant que cadre, entre guillemets, nous ne sommes puissants que si notre humilité, elle est là. Regardez-vous comme des serviteurs et pas dire « je suis le pasteur, je suis le diacre, je suis le conseil, je suis je ne sais pas quoi hein. ». Voilà, vous devez… Non, on est des serviteurs, on est des serviteurs et en tant que responsables, nous ne sommes puissants que par notre humilité. Plus nous sommes humiles et plus le Seigneur nous élève. Regardez Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu ici pour servir.
Dieu bénit ses orgueilleux, mais fait grâce aux humbles.
Vous vous souvenez, lorsqu'il s'est levé et il a commencé à laver les pieds des gens, Pierre l'a dit, ah non, pourquoi que tu as tout mis Dieu? Écoute, si je ne te lave pas les pieds. Hein. Et pourtant, c'était aux autres de faire ça, n'est-ce pas? Mais il s'est levé, il nous a donné un exemple que nous devons faire. Vous savez, si dans une église, il y a 10 hommes munis d'un doctorat, de grandes connaissances en eux-mêmes, mais peu consacrés au Seigneur. Mais par contre, s'il y a 10 hommes qui n'ont aucune connaissance, mais qui sont complètement consacrés à Dieu, au service de Dieu, une église va être bénie par eux, pas par les gens qui ont des doctorats. C'est ça, c'est ce que Paul nous dit. Donc, pas de notables, des gens qui se croient. Et aussi, il dit aussi au verset 21 et 23, pas de chef de clan. Pas de chef de clan. À Corinthe, il y avait des groupes qui exaltaient tel ou tel serviteur. Au-dessus des autres, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Christ, moi je suis de ça. C'est des clans. Je vous l'ai dit dimanche, si on fait ça, il y a des gens qui se disent, aujourd'hui c'est Hugues qui prêche et je ne vais pas. Ou c'est un dos qui prêche, je ne veux pas, je ne l'aime pas. Voilà, c'est ça. C'est un clan. C'est des clans. Et Paul, il leur dit, il s'est vanté de la proximité que des frères et sœurs, ils avaient avec eux, avec un tel responsable, contre un autre. Mais ces cadres, ils étaient des chefs de clans. L'Église était partagée en des clans. Hein? Les anciens, les serviteurs, les diacres ne règnent pas sur une Église. Mais c'est l'Église qui règne sur eux. C'est ça que nous devons avoir vraiment. Quelle raison Paul lui donne? Il dit, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Cephas. Tout est à vous, tout est à l'Église. Ce n'est pas Apollos, Paul ou Cephas qui sont les maîtres, mais tout est à vous, parce que vous êtes le corps de Christ, parce que vous êtes l'époux de Jésus-Christ. Tout est à vous. Il ne faut pas. Les Corinthiens avaient inversé les rôles des serviteurs. Ils avaient inversé les rôles des serviteurs. Ces derniers, les serviteurs qui servent dans l'Église, ils appartiennent à l'Église. Comme disait Bob, vous en souvenez, hein, chacun de nous l'a connu. Hein, hein, il disait, c'est pas l'Église de Bob Hoffman. C'est l'Église de Jésus-Christ. Je suis là, je suis juste un serviteur. Juste un serviteur. Ce n'est pas les hommes qui possèdent l'Église. Mais c'est l'Église qui doit posséder les hommes. C'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité. Ce ne sont pas les cadres qui possèdent l'Église. Mais c'est l'Église qui possède les cadres. Car on est des serviteurs. Serviteur de qui? De l'Église. Et c'est ça que Paul nous dit. Et vous savez, hein, la vie nous appartient en tant que chrétiens. D'ailleurs, il nous est dit dans 2 Pierre 1, 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout vient de Dieu. Sa divine puissance, la vie nous appartient. La mort nous appartient en tant que chrétiens. On voit ça dans 2 Corinthiens. Hein? Christ est ma vie, mourir m'est un gain. C'est ça là. Les mondes futurs, il appartient à qui? Aux chrétiens. Tout est à vous, il nous dit le Seigneur. Il nous a dit, heureux les doux en esprit, car ils hériteront la terre. Le monde futur, il est à nous. La vie, il est à nous, tant que chrétiens. La mort, il est à nous. Le monde futur, il est à nous. Tout ce qu'il faut, hein, tout ce qu'il faut, hein, c'est nous avons tout pour la vie et pour la mort. C'est ça que le Seigneur nous dit. Et c'est ça que nous devons comprendre. Vous savez, depuis chapitre 1, on prêche sur... On a regardé ces études sur l'unité. Et il y a unité de nature, comme il y a l'unité de nature entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous devons manifester la même unité dans notre Église. Mais, encore une fois, il y a l'unité de la Trinité, mais il y a des rôles différents. Il y a des rôles différents. Et c'est là qu'il faut garder de l'orgueil. Oui, mais ce qu'il fait Aldo, je peux le faire aussi. Ce qu'il fait Roland, je peux le faire aussi. On a tous un rôle à jouer. Il y a une place dans laquelle Dieu il a placé l'homme et la femme. Et sur ça, il y a beaucoup de divisions dans les églises. Je dis comment? Les hommes, ils sont plus avancés que nous, les hommes sont beaucoup plus avancés que les femmes. Dieu, il a donné un rôle à chacun. Et nous ne devons pas se dire ou passer d'un rôle à l'autre. S'occuper de quelque chose dans laquelle Dieu ne nous a pas placés. Parce qu'à chacun de nous, Dieu, il a donné un rôle. Ce qu'il nous demande, c'est que ce rôle qu'il nous a donné, nous puissions bien l'accomplir. C'est ça ce que Dieu nous demande.
Et on connaît notre rôle et l'Église connaît notre rôle aussi.
C'est ça le... Aujourd'hui, il y a des gens qui, dans leur grande connaissance, dans leur... ils s'écroivent, ils veulent prendre la place de l'un ou de l'autre. Ou je sais faire celui qui fait ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Sachant que les vouloir et les faire, il vient de Dieu, pas de nous-mêmes.
Quand tu dis le temple de Jérusalem, à chacun un rôle bien précis dans la culture du temple.
Mais c'est ça. Mais, et nous devons être unis comme la Trinité, elle est unie. Mais il y a des rôles différents. Jésus, il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Le Père, il aime le monde, il a élu ceux qui lui font confiance à Jésus, il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour accomplir le salut. Le Fils, le Saint-Esprit, il a été envoyé pour qu'il puisse convaincre les gens et accomplir dans le cœur des gens. Chacun, il a un rôle. Mais Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils sont tous les trois au même endroit. Et ils ont la même puissance. Mais chacun, il s'est humilié l'un devant l'autre. Le Père, c'est lui qui dirige. Le Fils, il est Dieu, mais il se soumet au Père. Parce que le Père, il a décidé de sauver tous ceux qui... Et alors, le Fils, voici, envoie-moi. Et le Saint-Esprit, ils se sont soumis les uns. Mais entre eux, il y a un amour que nous devons avoir en tant qu'Église. Voilà pourquoi il faut voir ces choses-là. On a vu ce que le cadre n'était pas. Mais regardons ce qui sont les cadres. Au verset, chapitre 4, verset 1. Il nous est dit ce qui sont les cadres de l'Église. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Christ. Voilà, les vrais cadres de l'Église, ils sont quoi? Ils sont des agents de Dieu. Ils sont des agents de Dieu. Voilà pourquoi il dit, comment regarder les responsables des églises, pas seulement ici, mais partout dans toutes les églises. Comment regarder les serviteurs de Dieu, les cadres de l'Église? Justement, Paul, il nous le dit, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, et des administrateurs des mystères de Dieu. Ce que Dieu conduit à avoir une responsabilité au sein de l'Église, sont des, comme on dit, ils sont des galériens. Vous savez ce qu'ils faisaient, les galériens? Constamment au travail. Bien sûr, au jour d'aujourd'hui, et même ailleurs, les gens ont pris un peu de repos, mais c'est des galériens. Les galériens, ils n'avaient pas de repos. Ils n'avaient pas de repos.
Ils enchaînaient à leur place.
C'est-à-dire, pourquoi on dit des galériens? Les galériens, ils étaient à la disposition de la galère dans laquelle ils étaient, du navire dans lequel ils étaient. Les serviteurs de Dieu, ils sont au service de l'Église. Au service de l'Église. C'est Dieu qui a mis tous ces gens à la disposition de son œuvre. Jésus, il a dit, je bâtirai mon Église. Mais pour bâtir quelque chose, il faut des constructeurs. Voilà, mais c'est ça. Et là, il nous rappelle les serviteurs inutiles. Oui, frère. Tu peux parler un peu plus fort, je suis dur d'oreille.
J'ai une question, pasteur Ado, concernant ce que je viens de dire. Jésus a dit, je bâtirai mon église. En fait, j'aimerais qu'on fasse une comparaison avec l'église qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Quelle est la différence entre Jésus, ou sinon nous qui sommes l'église, et l'église de l'Ancien Testament qui a été bâtie notamment par Salomon? Est-ce que c'est qu'on parle toujours de la même église?
C'est ce qu'il y a que Jésus, il a dit, comme tu viens de le dire, je bâtirai mon église. Donc ça veut dire quoi? Que l'église n'existait pas. Tu comprends? Hein? Avant c'était les temples, mais les temples avec les Romains, tout est terminé, hein? Les passés. Mais Jésus, il a dit, je bâtirai mon église. Il a commencé à bâtir. Et il nous a dit dans Acte 2 que le Seigneur, il rajoute à l'église chaque pierre. Et c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est qui doit cimenter l'union? C'est le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est le ciment qui unit toutes ces pierres vivantes. C'est le Saint-Esprit qui, c'est le ciment qui nous unit. C'est lui qui construit. Et encore une fois, l'Église, quand c'est qui va être terminée sur l'Église? Je l'ai dit la semaine dernière, lorsque tous les élus, ils seront rentrés dedans. Car Dieu, c'est quelque chose qu'on n'arrivera pas à comprendre dans notre petite intelligence. Il nous a dit dans Éphésiens, avant le commencement de toutes choses, Dieu, mon frère, il t'a élu. Où est-ce que tu étais? Tu ne sais pas non plus où tu étais. Mais Dieu te voyait. Il voyait le moment où tu aurais dit oui à quelqu'un qui t'aurait annoncé la parole. Et Dieu, il t'a élu à ce moment-là, avant le commencement de toutes choses.
Je rappelle que la deuxième étude de Daniel, Daniel n'a pas vu la guerre de l'État.
C'est exactement la même chose. Voilà pourquoi c'est très important de savoir cela. Hein? Ils sont aux dispositions de son œuvre, un peu comme les serviteurs inutiles dans Luc 7, 10. Il nous a dit, qui de vous, ayant un serviteur qui labure, occuper les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, sers-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, tu mangeras et tu boiras. Doit-il de la reconnaissance à ses serviteurs parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous-même, quand vous avez fait ce que qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Des serviteurs inutiles. Car ce qui nous rend utile, c'est l'Esprit de Dieu qu'on a nous. C'est ça, là. Et c'est ça que Paul nous dit. C'est ça. On est des galériens, on est des serviteurs. Et la deuxième chose qu'il dit, Paul le dit, administrateur des mystères de Dieu. Administrateur des mystères de Dieu. Le cadre, avant tout, c'est un enseignant de la parole de Dieu. Parole de l'Écriture, serviteur de la Bible. Quelqu'un qui sait expliquer et qui sait proposer à ses frères et sœurs. Pourquoi? Parce que le Seigneur il lui a donné cette puissance de pouvoir le faire. C'est ça que Paul nous dit. Hein? Il est avant tout un enseignant de l'Écriture. C'est aussi un exhortateur qui montre ce que la parole de Dieu, il nous dit par rapport à toutes les promesses de Dieu et par rapport à ce que nous sommes fidèles ou pas. Et l'Église, il doit constamment veiller à préserver le temps de ses serviteurs. Pourquoi? Parce que ils sont là pour étudier, pour expliquer, pour apporter les enseignements dont l'Assemblée a besoin. Encore une fois, chacun il a son rôle. Mais chacun de nous, il doit témoigner, chacun de nous, il doit apporter la parole de Dieu. Mais chacun a sa place. Chacun a sa place. Et voilà pourquoi il est dit dans Actes 6, 1, 2, c'est un verset qu'on connaît, hein. Il ne convient pas que nous délaissons la parole de Dieu pour servir aux tables. Ça, c'était ceux qui enseignaient les enseignements de Dieu, de Jésus, ceux qui apportaient ce que la Bible nous dit. Il a dit, nous ne devons pas perdre notre temps à servir aux tables. Voilà pourquoi qu'à partir de là, ils ont choisi des hommes fidèles pour servir à table. Lorsqu'il y a, et encore là, on voit l'humilité. Mais il faut donner au cadre, aux responsables, à ceux auxquels Dieu il a donné le moyen de pouvoir le faire, qu'ils puissent le faire et faire seulement ça. Aujourd'hui, on demande à responsables beaucoup de choses. Mais surtout au pasteur, qu'il soit disponible 24 heures sur 24. Ah ben lui, c'est pasteur, il peut rester. Hein. Ah, c'est les conseils, il peut être là. Hein. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein.
Allô, oui. Je veux dire que Dieu a choisi des administrateurs pour dispenser la parole de Dieu, mais parmi ces administrateurs, il y a aussi des serviteurs comme Étienne, un homme plein d'esprit feu pour servir au temps.
Un bon témoignage, n'est-ce pas?
Si tu prêchais, qui servait, qui balayait, chacun sur ta place, il était plein d'esprit saint. J'ai vous compris sur une description pour Étienne, pour un homme plein d'esprit saint pour servir au temps.
C'est ça, voilà pourquoi il dit le mystère des dieux. Pour apprendre et connaître le mystère des dieux, il faut du temps.
Disponible.
Hein? Voilà, du temps disponible. Les serviteurs, les cadres de l'Église, ils doivent avoir ce temps, parce que c'est leur travail d'enseigner les mystères du royaume. Et c'est seulement en regardant dans la parole qu'on peut le faire. Et il nous a dit, Paul, il a toujours exhorté Timothée, en Timothée 4, 13 et 15, il dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Applique-toi et sois tout entier à cette tâche, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance, car en agissant ainsi, tu sauveras ton âme et toi-même et ceux qui t'écoutent. Il faut que, pour qu'ils soient des dispenseurs de ce mystère des dieux, qu'ils étudient la Bible. Donc il faut ces temps en cadre de l'Église. Hein, il n'est pas là pour répondre à tous les besoins du peuple de Dieu. Parce que l'Église, encore une fois, elle est composée de plusieurs éléments. Il y a des cadres qui s'occupent et des exhortations, d'autres cadres qui s'occupent de la prière, d'autres cadres qui s'occupent des visites des malades. Mais il y a ceux qui doivent s'occuper de la parole, ils doivent s'occuper que de ça. Que leur temps ne soit pas pris pour faire autre chose. Chacun a son rôle à jouer.
Le verset 16, tout à l'heure, Timothée 4, 16, là, il dit, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et ceux qui t'écoutent, ceux qui préparent le message sont bénis eux-mêmes, et la bénédiction que vous avez reçue transmet à d'autres.
Mais on l'a vu il y a deux semaines, n'est-ce pas? Il y a pour certains, on est une odeur de mort, et pour d'autres, c'est une odeur de vie. Hein? Odeur de mort, c'est pour ceux qui n'acceptent pas.
Parce que si tu prépares le message de la parole que tu n'as rien reçu, il fait que lire un texte, ça n'apporte rien du tout. Il n'a rien reçu de lui, il ne peut pas transmettre à d'autres ce qu'il n'a pas reçu.
Mais encore une fois, ces hommes-là, il faut qu'ils soient basés sur la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui compte. Tout à l'heure, ma femme m'a montré quelque chose que quelqu'un lui a envoyé, un juif, je ne sais pas. Il m'a dit, il faut que tu écoutes ça. Il dit, c'est bien, c'est des Éthiopiens, vous savez, ils descendent ils disent qu'ils descendent de... Et voilà, et c'est écrit, on descend on est des enfants de la reine de Saba et de Salomon lorsqu'il a venu le visiter. Alors, j'ai coupé tout de suite. Ça veut dire que Salomon, il a couché avec la reine de Saba. Hein? Hein? Donc déjà, notre esprit doit être dans les doutes. La Bible nous dit que la reine de Saba, il était voir Salomon parce qu'il a entendu parler de sa sagesse. Voilà. Mais là, il nous dit, on est des enfants qui descendent de la reine de Saba et de Salomon. J'ai dit, bon, m'a dit ma femme, tu n'écoutes pas la suite. Je dis, non, je ne vais pas mettre mon esprit dans les doutes.
Alors, déjà, la qualification a été la fille, c'est la même bonne. Les Rastas, c'est la même philosophie, ils sont dans le Saba, donc ils sont le roi des rois, ils ont le tâche.
C'est ça que un serviteur de Dieu, un cadre de lui, il doit se baser que sur ce que dit la parole de Dieu. Si on commence à écouter à droite et à gauche, notre tête va être dans les doutes. Là, en lisant ça, je me suis dit, mais c'est vrai que Salomon, c'était un coureur. Hein. Il avait presque 1000 femmes à côté de lui. Hein. La reine de Saba qui vient le voir, paf, il couche avec. Et l'autre, il dit, oh, on est des enfants de la reine de Saba et Salomon. Non, il ne faut pas.
Mais pourquoi que les juifs reconnaissent les juifs parachats comme des juifs? Les juifs noirs, mais des juifs. On est prêt pour servir les besoins d'Israël, mais ils reconnaissent comme juifs.
Oui, mais oui, non, mais ça, oui, d'accord. Mais si c'était une certaine population qui disait qu'ils étaient des fils de ça, ils disaient, oui, on est le fils des Dan, de la tribu des Dan, la seule tribu qui a été amenée en captivité par les Assyriens. Non, je regrette. La Bible dit que les 10 tribus du royaume du Nord, ils ont été amenés en captivité. Il n'y a pas que la tribu de Dan. Voilà pourquoi, lorsque vous voyez quelque chose qui n'est pas conforme à ce que Dieu nous dit, ne continuez pas. Car ça va servir qu'une seule chose, à semer les doutes. À semer les doutes. Et Paul, il termine dans le verset chapitre 4, 2 à 5, et il dit, du reste, ce qu'on demande à des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle, un bon cadre, un bon responsable dans l'Église. La chose que Dieu demande, c'est la fidélité. Sinon, pourquoi il est cadre? Il ne place pas ses propres ambitions personnelles sur soi-même, mais il doit les placer sur Christ. La fidélité, il craint plus Dieu que les hommes. Ou que le monde tout autour de nous. Il cherche à faire plaisir à Dieu, pas aux gens de l'Église. Et Paul, il avait dit, il dit, moi, c'est ce que je veux, c'est que je ne vais pas écouter ce que vous me disiez. Vous apportez des jugements sur moi, mais ce qui m'intéresse à moi, c'est le jugement que Dieu il apporte sur moi. C'est ça que Dieu dit. Et c'est vrai que en tant qu'homme, on peut se demander comment est-ce qu'on réagit à la critique. Vous savez, dans une église, il y a des critiques partout. Il y a des choses qu'on n'aime pas, et alors on critique. Comment est-ce qu'on réagit à la critique? C'est vrai que des fois, il y a ce petit sentiment de culpabilité. Il dit, mais voilà, mes critiques, mais qu'est-ce qu'il y a?
Il y a critique et critique. Hein?
Oui, mais justement. Et il y a la solution. Il y a le sentiment. Le sentiment est juste. Hein? On sent la culpabilité. Ce sentiment est juste. Mais lorsque un frère il vient te voir, il te dit, Aldo, ça ne va pas. C'est pas selon la parole. Et alors, cette critique, ce n'est pas une critique, je l'accepte comme quelque chose qui va me reconstruire, qui va me remonter les morales. Je me réponds de ces choses-là parce que des fois, on ne voit pas toujours ce qu'on pense. Parce qu'on est observé. Il y a des frères et sœurs qui nous observent. Et des fois, nous, on ne voit pas nos propres défauts. Mais des frères et sœurs, ils le voient. Mais il faut, comme il a dit Jésus, il faut que lorsqu'il y a quelqu'un qui voit un défaut, qu'il aille voir le frère ou la sœur et qu'il lui dise, voilà, sans aucun jugement. Voilà, mon frère, j'ai vu que tu fais ça et ça et ça, et c'est pas selon la parole de Dieu. Et c'est là que les frères ou la sœur, ils doivent se dire, oui, tu as raison, mon frère et ma sœur, je me repens de ce péché et j'essaie de demander au Seigneur qui change de trajet. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est un sentiment juste, mais il y a aussi les sentiments injustes. Des gens qui te disent des choses qui ne sont pas vraiment vraies. Hein? Et c'est là que, toujours en tant que serviteurs, nous devons répondre avec amour. Et pas c'est lancer la balle. Hein? Parce que de l'autre côté, lorsqu'ils ont une balle, qu'est-ce qu'ils font? Ils te la renvoient. Voilà pourquoi Paul, il défend son ministère. Au verset dans 2 Timothée 3 et 7, il dit « Il m'importe fort peu d'être jugé par vous, car une juridiction humaine, je ne la juge pas non plus moi-même, car je n'ai rien sur la conscience. » On se sent dépourvu de toute chose, de ce qu'on nous disent les frères et sœurs. C'est pourquoi que nous devons faire très attention à ces choses-là. Et c'est dire que nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Nous sommes tous des galériens. Donc, il faut que chacun y regarde d'abord de son propre côté. Et s'il y a, encore une fois, des choses à changer, des choses à juger, disons, chez les frères et sœurs, mais qui sont des choses bibliques, alors là, oui, mais s'ils ne sont pas des choses bibliques, alors il faut bien sûr répondre avec amour, mais c'est dire, je suis un serviteur de Dieu.
La galère qui dit, si tous les galériens rament en même temps, la vie avance plus loin. Mais si quelqu'un ne rame pas, la troupe
est vivante. C'est ça, voilà pourquoi... C'est très important de connaître les cadres de l'Église. En fin de compte, on est tous des serviteurs. Mais il y a des cadres. Il y a, dans chaque société, il y a des gens qui dirigent. Il faut des gens qui dirigent. Mais encore une fois, il faut qu'ils dirigent selon le Seigneur. C'est un peu comme dans les mariages. Hein, qui c'est qui doit diriger? Dieu, il dit que c'est l'homme. Mais des femmes disent, oh oui, pourquoi c'est lui? Mais l'homme, il doit diriger selon le Seigneur. S'il dirige selon le Seigneur, hein, tout va bien dans un mariage. Tout va bien dans le mariage. Mais s'il dirige selon ses propres ambitions, ben, alors il ne peut pas y avoir. Voilà pourquoi il y a des cadres, des responsables dans l'Église qui doivent se diriger selon la parole de Dieu et seulement selon la parole de Dieu. Donc, à chacun de nous qui nous sommes tous, ou cadres, ou serviteurs, mais nous sommes tous des serviteurs, à écouter ce que Paul nous dit, car c'est des enseignements très importants pour que l'Église puisse marcher. Que le Seigneur nous aide dans cela. Amen.